qui en conditionne la signification.
Par exemple, si tu as les cheveux multicolores, avec ta peau blanche, tu auras l'air rebelle. Mais avec ta peau noire ou tes origines suspectes, tu feras ghetto. Ces définitions sont saturées jusqu'au moment où arrive dans les médias une célébrité blanche qui va rendre le truc tendance.
C'est ainsi que la première personne blanche venue est libre de s'approprier n'importe quel élément ou n'importe quelle pratique issue de n'importe quelle culture, grand self-service mondial des quinoa, maté, ayahuasca, yoga, dreadlocks, tatouages, rituels, médecine, mais...
A contrario, on te questionnera toujours avec condescendance si l'identité de ton choix ne correspond pas aux normes prescrites par l'identité qui est attendue de toi comme représentation de ton origine racialisée.
Joël Sambi. Ça me fait penser à un passage du texte de Hanan Kadour. La continuité de la vision coloniale dans la pensée et analyse des lesbiennes françaises, dans lequel l'autrice rappelle que les barrières entre les lesbiennes issues des migrations et les lesbiennes françaises ne saurait disparaître du seul fait que les lesbiennes françaises disent aimer les femmes. En effet, qu'elles aiment les femmes, les abeilles ou les coquelicots ne les rapprochera nullement des lesbiennes d'émigration issues des classes dominées.
La copine, qui a le teint clair, est damn near white.
Selon la vieille expression qui désigne, en Louisiane, notamment les plus blanches des personnes noires, et que j'emprunte aux études sur la créolité, la biracialité, la triracialité et le colorisme à l'intérieur des communautés.
Elle arbore fièrement le t-shirt qu'elle vient de trouver dans une fripe. Coup de bol, pour une fois qu'elle en trouve un qui lui plaît et qui est à sa taille, XL. Dessus, une photo de Fifi Brin d'Acier avec le slogan « Fifiminisme ». Elle arrive dans cette salle où sont en train de se regrouper des meufs, pour une réunion, j'imagine. Pigmentation de l'assemblée, claire. Direct, une fille la harponne. Pourquoi tu mets ça? Tu sais donc pas que Fifi est raciste? Raciste? Ah bon, merde alors. Et elle ferme son blouson par-dessus son déjà regretté t-shirt. Cette histoire vraie est exemplaire à mes yeux de ce que je dénonçais en parlant du « safe plus care égale bienveillance ». Ce n'est évidemment pas l'armée des bonnes intentions que je dénonce. Personne ne conteste ici que les mouvements féministes punk ont toujours pris grand soin de se laisser contaminer par les textes majeurs du black féminisme et de l'international queer. Personne ne conteste la conscience qu'ont les filles blanches du racisme comme pilier structurel d'un pouvoir auquel elles participent, ni la nécessité de veiller ensemble à ce que nos espaces soient exempts de tout ce qui pourrait contribuer à le reproduire. Je ne mets pas en doute non plus la sincérité qui est la nôtre à l'intérieur de ce qui se pose comme une nécessaire et inconditionnelle trahison de caste. Nous savons que le racisme sert nos intérêts de blanches dans un système qui, aussi longtemps qu'il sera dominé par les blancs, nous sera toujours racialement favorable. Nous le vérifions à chaque confrontation avec le pouvoir.
Les white kids en général, punk ou non, peuvent bien sortir avec leur mohawk vert et leurs lèvres percées, quelle que soit leur déviance par rapport à la norme sociale, c'est leur blanchité qu'on verra toujours en premier. Mais moi, par exemple, si je sors quelque part avec mes copines, qui ont toutes l'air au moins aussi chelou que moi, et si on se fait, disons, chauffer par des keufs parce qu'on fait du skate sur le trottoir, par exemple, ce flic, il va se rappeler ma gueule beaucoup plus facilement que les autres. D'ici, je peux entendre exactement ce qu'il va dire. Il y avait cette fille noire avec des cheveux roses et deux autres filles.
Et s'il nous arrive d'en jouer, c'est avec ce mélange chaud-froid de cynisme et d'amertume qui fait l'humour punk. Tu veux un plan chour facile? Faut une équipe de quatre. Une fille blanche, bien fringuée, et trois filles racisées, lookées, zone. Elles entrent les premières et elles traînent, présence immédiatement louche entre les rayons. Dans la minute, les vigiles seront focalisés sur elles et le champ sera libre pour l'autre qui entrera seule un peu plus tard et pourra, incognita, dévaliser à l'aise. Nous savons ce que cette posture a de tendancieux et combien elle exige de confiance politique pour oser la mettre en œuvre avant et pouvoir en rire ensemble après. Combien nous rend suspectes aussi, les unes pour les autres, la moindre tension qui pourrait poindre. Entre racisme intégré et appropriation culturelle, se niche et se déniche la posture orgueilleuse de l'élite radicale, autant que l'innocence de celle qui débarque et qui croyait bien faire.
Joël Sambi. Je voudrais insister sur la déconstruction permanente, une attention de tous les instants, car le diable se loge dans les bonnes intentions. L'élite radicale, queer, blanche, est bien souvent celle qui s'agitera pour montrer à ses amies non blanches qu'elle est parfaitement consciente des privilèges qui sont les siens et en désaccord avec la domination qu'elle peut exercer bien malgré elle, s'empressant ainsi de dénoncer de manière ostentatoire, telle une élève qui attend sa gommette, avec véhémence, celle qui par son ignorance viendrait souligner des rapports inégaux existants de fait. Comme si les racialisés n'avaient pas la capacité de le pointer par elles-mêmes. Paternalisme ? L'élite radicale, queer, noire, fera de même à l'intérieur comme à l'extérieur de sa propre communauté. Pour l'une comme pour l'autre, la bienveillance n'est pas de mise. Et tout aussi grave à mon sens, elle dénote d'une certaine absence, incapacité à conscientiser la classe, parents pauvres de la trilogie classe, sexe et race. Qui sont celles qui connaissent l'histoire de Fifi Brin d'Acier au point de pouvoir la qualifier de raciste ? Qui a accès à l'information, à la lecture, au savoir ? Où se partagent-ils ? Dans quel cercle ? Ceux de la non-mixité choisie qui finit par devenir oppressive en se posant comme curseur de la bien-pensance queer.
Les enfants se déshabillèrent et se précipitèrent dans l'eau en poussant des hurlements. Puis ils se roulèrent sur le sable blanc. Fifi, Tommy et Annika étaient d'accord sur ce point. Ils auraient aimé être noirs. N-word. Car c'était bien plus rigolo d'avoir du sable sur une peau noire. Mais quand Fifi s'enterra dans le sable jusqu'au cou et qu'il ne dépassa plus que sa tête couverte de taches de rousseur et ses deux tresses bien droites, c'était tout aussi rigolo. Les enfants, N-word, s'attroupèrent pour lui parler. « Toi, parler des enfants blancs dans le pays des blancs ?» dit Momo à la tête rousse. « Enfants blancs, adorer la nulplication. »« La multiplication, » corrigea Annika. « Et puis, on ne peut pas dire qu'ils adorent la multiplication. » poursuivit-elle d'un ton offensé. « Enfant blanc, adorer la nulplication !» insista Fifi. « Enfant blanc, catastrophés s'ils n'ont pas chaque jour leur dose de nulplication !»
Que nous le voulions ou non, nous sommes culturellement pétris d'impérialisme. Refuser cet héritage, se dire qu'on le refuse, est une option aussi puérile que tentante. L'envie de penser, ce n'est pas parce que je suis blanche que je suis les blancs. Pirouette qu'on est toujours très prompte à déceler chez ces funambules des postures queer, vous savez, ceux qui revendiquent le droit d'être considérés comme des personnes sans être systématiquement ramenés à leur statut de mec cis hétéro et dont le refrain argumentaire est qu'il est temps d'en finir avec toutes ces catégories. Refuser l'héritage, donc, n'est pas une option. Seul importe la question de savoir quelle sorte d'héritière nous sommes. Avec le devoir minimum de s'informer sur ce dont on hérite. De se parler dit par exemple, distillé dans l'imaginaire collectif à travers les multiples vecteurs de la culture populaire. Nos générations banania, toujours le must des brocantes à bobo, prises entre Tintin et Toto, auquel n'est jamais parvenue sans doute l'histoire de ce qui, loin d'être la représentation raciste d'une quelconque réalité langagière, est en vérité un produit de l'armée coloniale française. Mais aussi de ce qui a été l'échec féministe punk, je parle des premiers mouvements riots, à mettre en pratique les théories intersectionnelles qui leur étaient chères. Car il reste à lire, traduire et diffuser l'histoire des Sista Girls Riot, non pas comme une note en bas de page.
Ce que l'histoire dominante est en train de faire, nous conditionnant une fois de plus à devoir ajouter le mot « black » au mot-clé « riot, punk ou girl » dans les moteurs de recherche pour avoir accès à l'histoire de ce qui menace de nous être, une fois de plus, confisqué par le « white gaze ».
Non pas comme une note en bas de page, donc, mais comme un chapitre essentiel à notre compréhension de nous-mêmes. Comment les filles noires, les filles chicanas, les filles asiatiques américaines en sont venues à faire sécession à l'intérieur de ces émeutes qu'elles avaient parfois rejointes et qu'elles ont souvent quittées, faute d'y trouver leur place, trop blanco-centrée.
Ce soir-là, aux Brownies, elles ont enfin trouvé leur place. dans une salle qui affichait complet, bourrée de filles qui voyaient enfin des artistes qui leur ressemblaient sur scène. Si vous vous y étiez pointé sans trop savoir, vous auriez certainement cru que Brown, Glick, Stone et Coleman étaient des Riot Girls. Elles étaient des femmes en colère, fatiguées de faire des concerts de merde et de passer toujours après des groupes de mecs. Mais elles refusaient d'être considérées comme des Riot Girls. Ce n'est pas comme ça qu'elles se voyaient. Il y a eu les Riot Girls, explique Brown, mais nous, c'était différent. Nous étions la Sista Girls Riot. La distinction était cruciale.
À l'heure où la nostalgie des 90s, pris dans le regain des vigueurs féministes, fixe une narration des girls menacées de confiscation raciale, ces filles luttent contre l'invisibilité en prenant en charge, elles-mêmes, le récit d'une histoire qui les relègue, une fois de plus, dans les marges colorées de la grande aventure humaine, en se posant la question d'une alternative à l'alternative. Si on veut se donner les moyens d'y répondre avec elles, on ne pourra pas faire l'économie, je crois, de répondre d'abord de l'héritage qui est le nôtre.
Alors que le mouvement Riot Girl fait aujourd'hui l'objet de tant de rétrospectives, il importe de s'intéresser aux critiques formulées par les femmes de couleur. Elles sont cruciales à la fois pour notre mémoire du féminisme et pour les féminismes futurs. Et si une émeute raciale devait tout faire voler en éclats, que resterait-il des Riot Girls? S'en souviendrait-on comme d'une brève interruption? Et comment faire ensuite face à l'avenir? Soit que de vrais changements aient été accomplis, soit que la violence, y compris celle de l'effacement, de la tergiversation ou de l'annexion, ait perduré.
Écrit Mimi Tien Nguyen, l'une des penseuses de l'histoire raciale des Riot. Ce qui revient à croiser la question de ce que nous sommes et de ce qui nous mobilise avec la question de ce qui libère ceux et celles que nous ne voulons pas contribuer à aliéner.
Si vous venez ici pour m'aider, vous perdez votre temps. Si vous venez parce que votre libération est liée à la mienne, alors travaillons ensemble. Cette phrase, issue de la réflexion collective du Aboriginal Activist Group, Queensland, 1970. What? No. Bon, bref, fut prononcée par Lila Watson aux Nations Unies lors de la 3e conférence mondiale sur les femmes.
Hériter ne signifie pas simplement être des alliés dans une lutte pour l'égalité des chances à l'intérieur d'un système par définition inégalitaire, mais d'être des complices dans une lutte dont le but ultime est la ruine des privilèges, les nôtres y compris. Parmi lesquels le luxe de penser que c'est tout aussi rigolo d'être noir que d'être rousse à couette, ou qu'une fille noire est juste une fille qui n'a pas la peau blanche. La plupart d'entre nous, impliqués dans le sabotage des politiques migratoires, qui cachent mal leur nostalgie morbide, avons pris une baffe hautement salvatrice dans la gueule lorsque s'est mis à circuler un texte rédigé par un collectif natif américain pour les luttes d'émancipation indigènes. Adressé aux personnes qui, bien que militantes décoloniales, ne sont pas personnellement menacées dans leur survie par le colonialisme, il y est question d'alliance versus complicité.
N'imaginez pas que ceci s'adresse uniquement aux jeunes alliés blancs, blanches de la classe moyenne, aux activistes payés, aux organisations non gouvernementales ou, comme l'a dit un ami, aux anarchistes et étudiants étudiantes à mobilité vers le bas. Il y a beaucoup de soi-disant alliés dans la lutte pour les droits des migrants qui soutiennent une réforme compréhensive de l'immigration, intensifiant la militarisation des territoires.
Motivés par la culpabilité de vivre dans un système de privilèges dont les injustices raciales sont criantes, ou par la honte d'y collaborer passivement, le, selon la formule désormais consacrée, « soutien aux migrants », établit une relation d'interdépendance entre des « sauveurs » et des « victimes ». Nourri de romantisme, ce type de relation peut mener à l'exploitation autant de l'opprimé, traverseur de frontières, que de l'oppresseur, citoyen indigné, à l'intérieur du processus de marchandisation de la solidarité. Engagement chargé de pathos que les médias relaient, indice s'il en est de son ambivalence politique, tout empreint d'une fétichisation de « l'autre qui a besoin de notre aide ». Et nous qui trouvons dans cette aide à apporter l'expression, publique ou intime, que nous sommes du bon côté. Sentiment que ne peut rendre possible qu'un formidable déni de ce que nous sommes, le produit démocratique du colonialisme.
Quiconque s'implique dans les luttes contre l'oppression et pour la libération collective a, à un moment ou à un autre, participé à des ateliers, lu des manifestes ou pris part à de profondes discussions sur comment être une bonne alliée. Vous pouvez maintenant payer des centaines de dollars pour aller dans des instituts ésotériques, vous procurer un certificat d'allié anti-oppression. Pour faire de la lutte une marchandise, il faut d'abord l'objectiver. Cette objectivation, oui, est révélée par la manière dont les problèmes sont présentés et étiquetés. Quand la lutte est une marchandise, la solidarité est une monnaie d'échange.
Qu'est-ce qu'une alliée ? C'est quelqu'une qui fait un choix stratégique. Lorsque la neutralité n'est plus possible, l'alliée choisit son camp. Le camp dans lequel elle va pouvoir, à l'intérieur du cadre légal institué en cadre moral, défendre ses propres intérêts. Sommes-nous des capitalistes à but non lucratif, dont la carrière, réelle ou symbolique, dépend des luttes que nous soutenons ? Sommes-nous redevables à ces luttes d'un crédit de notoriété, d'une image flatteuse, d'un oubli ou d'une exacerbation thérapeutique de soi ? Faisons-nous de l'oppression un savoir para-universitaire qui nous confère une expertise théorique, voire, à bien peu de frais, un statut valorisant d'intellectuel de terrain ? Faisons-nous de la parole des « opprimés » notre fonds de commerce, une matière à projet, politique, artistique ou socioculturel, exigeant de ces gens, pour notre propre image, qu'elles soient des victimes impeccables ? Sommes-nous des alliés ? Qu'est-ce qu'une complice ? C'est quelqu'une qui, dans la clandestinité, aide à commettre un délit. Non parce qu'il nous paraît juste, mais parce qu'il est indispensable. Il s'agit bel et bien de passer de l'autre côté de la loi, de se mettre soi-même en danger au service de ceux et celles qui n'ont pas d'autre choix que se battre, c'est-à-dire trahir l'histoire qui nous protège et dont nous sommes issus, en adoptant une cause qui nous déclasse. J'écris tout ceci et je sais qu'écrire, dans un cadre reconnu, j'entends, n'a jamais déclassé personne. Bien au contraire, il me semble. C'est pourquoi je pense que ce livre sera mon dernier. Si je le note ici, c'est pour m'en souvenir. Tout en pressentant la vanité qu'il y a dans ma recherche d'une posture qui serait en quelque sorte innocente. Et qui n'est pas sans lien avec la pression que subit une fille quand elle s'approprie les outils du maître.
Je te livre ici un peu de ma hantise. « Jamais on ne détruira la maison du maître avec les outils du maître », écrivait Audre Lorde. Et je suis retournée voir récemment son texte. Quels propos se déployaient-ils au juste autour de cette citation devenue sentence ? Une sentence dont je sentais bien l'endroit de ma condamnation. Le langage, son articulation, les mots, leurs usages et leurs sens. Outils du maître par excellence qui te font endosser sa posture de domination. La conclusion d'Audre Lorde, pourtant, retourne en quelque sorte le verdict au jury. « Je fais mon boulot, dit-elle. Est-ce que vous faites le vôtre ?» Et s'il s'agissait bien plus que de la détruire, de l'occuper cette maison. Je veux dire, de la squatter. Alors voilà, j'écris des livres comme on squatte une maison de maître laissée à l'abandon. Inoccupé, mais que les propriétaires n'entendent pas céder pour autant. Littérature française. C'est vide, c'est en ruine, vous n'en avez pas besoin. Pour l'instant, c'est chez moi.
Ne vaudrait-il pas mieux suivre Haraway en disant
« I want to stay with the trouble »
affirmer avec elle
que aucune réponse ne pourra faire en sorte que qui que ce soit se sente bien pour longtemps.
Souvenir. Un été à 7. On pose le camion sur un parking. Au coin de la rue, les copains d'abord, un bistrot, sur la façade duquel est reproduite en très grand la célèbre photo de Brassens, Brel et Ferré. Rencontre hiératique des trois indiscutables génies de la misogynie bien assise. Et nous voilà en train d'échafauder un plan pour remplacer sur le mur le visage des trois messieurs par celui de Haraway, Stengers et Després. Rien que l'envie nous met en joie. Une joie qu'augmente encore, je crois, la certitude que les clients n'auront aucune idée le lendemain de qui peuvent bien être ces trois bonnes femmes qu'on leur a collées à la place de leurs héros.
Donna Haraway. Ainsi, la non-innocence en science m'intéresse. Et elle m'intéresse aussi à un niveau personnel, parce qu'elle a pu répondre, chez moi, à un besoin psychologique d'être une bonne fille. J'ai toujours envié celles qui, comme Isabelle, c'est la fiction que je construis à son sujet, n'ont pas eu besoin d'être cette fille obéissante, pour quelque raison que ce soit, et qui pouvaient se rebeller comme fille. Vinciane Després. Il y a quelque chose de vrai, je me souviens de ce que toi, Isabelle, tu m'as raconté. Quand t'étais petite, s'il y avait une injustice, tu pouvais prendre le risque de foncer sans savoir si t'allais être suivie, quitte à te mettre tout le monde à dos. Isabelle Stengers. Ce que je t'ai raconté, c'est plutôt que quand je n'ai pas osé, j'ai eu honte. Et j'ai gardé avec soin la mémoire de cela. Cela m'a un peu servi de boussole. J'ai eu honte quand je laissais faire ou dire, et j'ai appris au travers de cette honte, et c'est loin d'être fini. Donna Haraway. Tu as été dotée de la honte. Et moi, j'ai été dotée de culpabilité, ce qui est tout différent. Et j'ai appris la honte bien plus tard, et c'était après que j'ai abandonné la culpabilité. J'ai commencé à comprendre le caractère extraordinairement autocentré de la culpabilité, l'inexcusable narcissisme du Peter Pan de la culpabilité. La culpabilité, c'est un peu comme la jouissance de la curiosité. Vous êtes toujours en train de vous préoccuper de l'état de votre propre âme, d'une certaine manière, et vous ne cherchez pas à voir avec les autres ce qu'on est en train de faire ensemble.
Ok, c'est tout sauf simple, mais franchement, on bosse. Il y a quelque temps, des copines ont entrepris de traduire, afin de le diffuser en brochure comme outil de travail, le bouquin de Laila F. Saad, Me and White Supremacy Workbook.
Définir la suprématie blanche comme une idéologie d'extrême droite aux remugles néo-nazis, écrit-elle, est à la fois incorrect et dangereux, car ça renforce l'idée que la suprématie blanche est une idéologie qui n'est défendue que par un groupe marginal. La suprématie blanche est loin d'être marginale. Dans les sociétés et les communautés dominées par les blancs, c'est le paradigme dominant qui forme la base à partir de laquelle les normes, les règles et les lois sont créées.
Ce que je voulais mettre en lumière, c'est, au-delà de nos bonnes intentions, l'enfer auquel leur chemin tout pavé peut conduire. À cette situation dans laquelle, par exemple, une meuf blanche remet à sa place une meuf racisée sur la question même du racisme. À cette situation dans laquelle, par exemple, une meuf racisée prise pour une blanche fermera sa gueule et son blouson plutôt que de faire remarquer à l'autre l'ironie pour le moins cuisante de la scène. Puis se confiera longuement, plus tard, ailleurs, en aparté, sur son inconfort inextricable de « light skin » et sur les acrobaties mentales que son existence exige, partout, tout le temps, y compris à l'intérieur d'une culture politique où les limites individuelles ne se discutent pas ni ne peuvent être remises en question. Si on te dit que ton t-shirt pose problème, tu vires ton t-shirt et puis c'est tout.
Monica, tu trouveras moins de problèmes existentiels chez les personnes métissées qui ont grandi dans des pays africains. À mon sens, l'inconfort des personnes métissées provient de ce qu'elles ont grandi en Europe dans un milieu majoritairement blanc qui les rejette d'office comme faisant partie d'un ailleurs. Alors qu'en Afrique, les familles sont inclusives. Les enfants métissés sont nos enfants. Globalement, ce que tu dis sur le racisme me semble très tordu. Trop de références américaines qui ne recouvrent pas du tout ma réalité. La réalité du combat des Noirs américains est très loin de ce que je peux vivre ici en Europe. En revanche, j'ai lu avec avidité plusieurs des textes en lien. Mais tu dois savoir que le racisme auquel les Noirs américains font face est très différent du racisme en Europe, qui est encore différent du racisme dans certains pays africains.
Ceci empêche souvent d'aller au fond des questions, de les analyser d'une façon plus globale, de ne pas se limiter aux ressentis des gens, mais de les questionner sur la place qu'ils prennent, d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils créent politiquement. Cette histoire de limite est liée aussi à comment un milieu est construit et à comment il fonctionne. Déjà, dans chaque milieu, des normes ainsi que des codes existent et se créent. Ces normes hiérarchisent des thématiques, mais aussi des limites comme plus ou moins légitimes, reconnues, valorisées. D'autre part, il y a des personnes qui se sentent plus légitimes à poser des limites. Et pourquoi des personnes se sentent plus légitimes ? C'est souvent des personnes qui ont plus de privilèges, qui correspondent plus aux normes, qui ont une facilité à s'adapter, une capacité à s'approprier les normes ou les modes de fonctionnement d'un milieu, d'un groupe. Il est alors important de se poser la question des privilèges et des rapports de pouvoir qui existent et qui sont créés par ses formes de légitimité. Extrait de la brochure « Les espaces safe nous font violence ».
Haroun, tu viens jouer au foot, man ? Moi, pas maintenant, je suis en train de bosser, là. Haroun, t'écris quoi ? Moi, tu sais bien ce bouquin sur Fifi. Haroun, encore ? T'auras bientôt fini ? Moi, dernier chapitre. J'essaie de voir si Fifi est raciste ou non. T'en penses quoi, toi ? Haroun, bah oui, évidemment qu'elle est raciste. Mais d'une façon gentille, enfin, tu vois, comme les gens qui veulent pas être racistes, mais qui disent « Oh, comme ces petits noirs sont mignons !» Moi, tu l'écrirais pas à ma place, ce chapitre, puis moi j'irai jouer au foot un peu toute seule en t'attendant.
Pendant ce temps, les petits Kourikouriens s'approchent du trône de Fifi. Pour une raison absolument incompréhensible, ils pensaient que la peau blanche était plus belle que la peau noire, et leur respect augmentait à mesure qu'ils s'approchaient de Fifi, Tommy et Annika. Et puis, Fifi était princesse. Arrivés près de Fifi, ils s'agenouillèrent devant elle, à en toucher le sol. Fifi sauta de son trône. « Vous avez perdu quelque chose ? En tout cas, il n'y a rien par ici, alors relevez-vous donc !» Momo essaya d'expliquer à Fifi pourquoi il s'agenouillait devant elle. « Toi, être très jolie princesse, » dit-il. « Je, pas être très jolie princesse, » répondit Fifi en mauvais couricourien. « Je, être seulement Fifi Brin d'Acier, et je me fichais de ce trône. »
De son incompréhension clownesque jusqu'à son auto-détrônement, en passant par son envie immédiate de jouer avec les petits enfants noirs, Fifi se démarque des normes coloniales au moins autant qu'elle se démarquait des normes de la minuscule petite ville suédoise quand elle vivait à la Villa Vérévolt. Il s'agit de mettre en scène l'absurdité des inégalités raciales autant que de dénoncer l'illégitimité du pouvoir qui en découle. À n'en pas douter. Mais si l'on ne peut douter des bonnes intentions d'Astrid Lindgren, elles sont toutefois cousues de fils blancs. La manière, en effet, est loin d'être anodine, en ce qu'elle présente ses enfants comme spontanément déférents à l'égard de la princesse blanche. Construction narrative qui donne en fin de compte les pleins pouvoirs à Fifi, y compris celui de refuser les privilèges dont elle se voit gratifiée par une sorte d'inclination spontanée qu'auraient les Noirs à la soumission. Stéréotype typique d'un antiracisme qui est encore du racisme. Évacuons d'emblée l'argument habituel de l'indispensable remise en contexte historique d'un livre qui fut écrit à une époque où les mentalités blablabla, puisque ce sont les mentalités contemporaines qui, depuis une dizaine d'années, s'agitent autour de la question. Fifi est-elle raciste ou bien anti-raciste ? Et tentons plutôt de voir en quoi cette question peut nous servir de ricochet vers nous-mêmes. Si l'on se regarde dans Fifi Brin d'Acier, il se peut qu'apparaisse notre propre reflet, celui d'une fille résolument anarchiste, queer, punk, féministe, anti-autoritaire et blanche. Laila F. Saad précise.
La suprématie blanche est un système dans lequel vous êtes né. Que vous le sachiez ou non, c'est un système qui vous a accordé des privilèges, une protection et un pouvoir, sans que vous n'ayez eu besoin de les conquérir. Ce système est en outre conçu pour vous maintenir dans le sommeil tranquille de l'ignorance. Ignorance de votre domination et ignorance de ce qu'elle signifie pour les personnes qui ne bénéficient pas du privilège blanc. Ce qui vous est donné, parce que vous êtes blanche, a un coût très élevé pour les personnes qui ne le sont pas. Cela peut vous rendre malade, susciter en vous de la culpabilité, de la colère et de la frustration. Mais vous ne pouvez pas changer la couleur de votre peau blanche pour ne plus recevoir ces privilèges, tout comme je ne peux pas changer la couleur de ma peau noire pour ne plus recevoir de racisme. Ce que vous pouvez faire en revanche, c'est prendre conscience de ce qui se passe réellement, de contester votre participation dans ce système et d'essayer de le démanteler en vous et dans votre communauté.
Nora, racisme intégré plus appropriation culturelle plus élite radicale plus innocence, tout m'habite. Et les bons points que le milieu te donne en échange de ton comportement, je les sens amers, mais je les compte, toi aussi. Toutes, nous les comptons, plus ou moins consciemment, plus ou moins fièrement. Je te lis et ça me démange là. Ces notions me démangent là où elles doivent. Mais lire cette scène de Fifi qui se détrône et cette question d'allié et de complice m'a fait repenser à Lula et Lulia, accueillis chez moi lors de l'expulsion de ce que l'État français avait appelé le camp de la chapelle. Elles resteront quelques semaines, elles me demanderont « Comment on fait pour aller en Angleterre ?» Je penserai, Je prends ma voiture, immatriculée 92, j'enfile la robe qu'il faut pour passer sans ennui et je roule jusqu'au tunnel sous la Manche. Je ne l'ai pas fait. Complice, j'ai pas réussi à l'être. J'ai quand même gagné mes points totaux de hors-la-loi en commettant ce que les journaux appellent maintenant le « délit de solidarité ». Ça n'enlève pas la honte. Ton chapitre, je l'ai d'abord trouvé flottant, mais en fait, ce dont j'avais envie en le lisant, c'est qu'il soit moins flottant que nous. Mon intervention, c'est une envie de mettre un peu de chair dans cette équation racisme intégré, plus appropriation culturelle, plus élite radicale, plus innocence. Envie de dire aussi que la complicité, telle qu'elle est définie actuellement par la loi, en dit long sur la collaboration. S'interroger sur la nature de la complicité, ou disons, sur sa forme.
La question du racisme dans les livres de Fifi Brin d'Acier surgit en 2011 en Allemagne. Est-ce que Wohlrad, théologienne féministe, fait une intervention lors d'une conférence contre les discriminations qui se tient à Leipzig? La presse relaie assez fidèlement ses propos, qui donneront lieu pourtant très vite à une polémique simpliste autour d'un sujet complexe, animé par des gens qui, de toute évidence, ne prendront pas la peine de lire le texte incriminé. Polémique où s'agiteront quelque temps côte à côte les humanistes de gauche et les puristes de droite, à moins que ce ne soit l'inverse. Mais, somme toute,
des gens ordinaires qui, lorsque leur droit de définir le racisme est contesté, commencent à avoir de l'écume au bord des lèvres.
Combat de blanc dans la farine. On a vu, paraît-il, en Suède, des villes conservatrices utiliser l'argument du racisme pour retirer des bibliothèques ces livres qui, d'évidence, les gênaient pour d'autres raisons. On raconte qu'il y a eu des bûchers. On raconte aussi que ce furent des rumeurs. On raconte encore que c'était de simples et très communs déstockages. On raconte enfin que ces villes, loin d'être conservatrices, menaient au contraire avec application des politiques multiculturelles. En France, des fachos décomplexés prendront la défense de Fifi pour revendiquer en son nom la fierté d'une culture blanche menacée de disparition. Tandis que la jet-set médiaculturelle montrera une fois de plus son incompétence à traiter avec sérieux les questions sérieuses. Comment les Inrocks, pour ne citer qu'eux, sont tombés dans le panneau de toutes les dominations universalisantes en usant de cette rhétorique prétentieuse qui masque l'ignorance et dispense de bosser sur les sujets qu'on choisit d'évoquer.
Faut-il absolument être théologicienne et allemande pour considérer que les ouvrages de Fifi Brin d'Acier ou Pippi Langstrump en suédois sont racistes? Ce n'est pas nécessaire, mais manifestement, ça aide. Le docteur Eske Wohlrad est membre de l'Association fédérale allemande des femmes évangélistes et elle vient de se pencher sur la lecture des œuvres d'Astrid Lindgren et les aventures de la petite rouquine dotée d'une force incroyable. Ses conclusions sont idiotes. Les voilà. Selon la dame, Fifi Brin d'Acier serait un reflet des stéréotypes racistes hérités de l'époque colonialiste. Cet article a disparu du site des Inrocks et se trouve désormais sur actualite.com. Clément Solim, Fifi Brin d'Acier, des histoires racistes chargées de colonialisme. Le même sieur commettra, en 2015, 4 ans plus tard, un deuxième article, oublieux du premier, dans lequel il se réjouira d'annoncer Fifi Brin d'Acier, une édition révisée, expurgée de racisme. En 2015, en effet, Karine Niemann, la fille d'Astrid Lindgren, présente à la presse suédoise une nouvelle édition des livres de sa mère dans laquelle Ephraim non seulement cesse d'être roi des N-word, mais n'est plus roi du tout. Elle explique « J'avais écrit une préface pour Fifi, voilà une dizaine d'années, où je disais qu'on ne pouvait pas modifier le texte, mais je n'avais pas perçu à cette époque qu'il y avait des personnes en Suède qui souffraient de ce satané mot. Donc, il doit être retiré. » Et Astrid n'aurait pas eu d'objection, j'en suis absolument certaine. Et si l'on peut dire, oui, qu'Astrid n'y aurait pas vu d'objection, on se demande pourquoi elle n'a pas elle-même modifié son propre texte, puisque, en 1970, soit 45 ans plus tôt, elle confiait à une journaliste que, si c'était à refaire, je supprimerais beaucoup d'idioties. Et il est certain que je n'aurais pas fait du père de Fifi un roi N-word, ce gars blanc qui vient dans les mers du Sud et porte une jupe en bambou. Non, ce n'est pas ce que je pensais, que nous sommes tellement supérieurs aux Noirs que si nous arrivons dans les mers du Sud, nous devenons aussitôt des rois. Certaines personnes ont trouvé que c'était d'un racisme incroyable. Quoi qu'ils puissent dire sur moi, personnellement, s'ils pensent que j'ai des tendances racistes, c'est faux. Et Fifi non plus. Mais les temps ont changé et aujourd'hui, je n'aurais pas fait de lui un roi N-word.
Pour revenir à la citation des Un Rock, on peut voir au passage le mépris, la misogynie et la manière dont le rejet de l'analyse de Eske Wohlrath, pourtant évidente, prend appui sur une stigmatisation de celle qui l'a produit. Or, quels étaient les propos de Eske Wohlrath ? Ce n'est pas que Fifi est raciste, explique-t-elle, mais que les romans de la trilogie véhiculent des stéréotypes racistes coloniaux. Elle raconte qu'un jour, alors qu'elle lisait les histoires de Fifi à ses neveux, dont l'un est noir, elle s'était surprise à sauter certains passages dont elle craignait qu'ils ne soient offensants pour lui. Et d'ajouter
« Loin de moi l'idée de condamner ce livre dans sa totalité. Au contraire, il contient beaucoup d'aspects positifs. En plus d'être très drôle, il est instructif pour les enfants. Fifi est non seulement une figure féminine puissante, mais elle est aussi contre l'agisme, l'idée des adultes responsables et férocement opposée à toute violence envers les animaux. Il y a dans ce livre une critique très forte de l'autorité. »
Ce qu'elle suggère alors, c'est non pas de toucher au texte, mais plutôt d'ajouter dans l'édition des notes qui pourraient servir de guide de lecture et de discussion à l'endroit des passages problématiques. Sachant que les éditeurs jeunesse continuent de fantasmer un public blanc de classe moyenne, alors qu'en Allemagne, par exemple, un tiers des enfants de 5 ans est issu d'une histoire familiale de migration. A priori, le socle sur lequel Eske Wohlrath pose sa réflexion semble être le plus pertinent, l'expérience de sa propre confrontation.
La seule question à se poser, c'est si oui ou non on peut lire ce passage à voix haute pour un enfant noir sans s'interrompre ou se mettre à bafouiller, dit-elle. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut savoir si c'est correct ou pas. On voit de plus en plus de gentils blancs expliquer à de gentils noirs ce qu'est le racisme et ce qu'il n'est pas.
Petit exercice de translation d'une oppression systémique que nous ne vivons pas, le racisme, sur une autre que nous connaissons bien, le sexisme. Imaginons un instant la fiction exotique qu'aurait écrite un homme dans les années 40, d'une île au nom stupide, disons Cunicuna, où ne vivraient que des filles. Un garçon débarquerait, s'asseoirait sur un trône et à mesure que les filles s'approcheraient de lui, leur respect augmenterait car, pour une raison absolument incompréhensible, elles penseraient que le masculin est mieux que le féminin. Imaginons ensuite qu'un homme, théologien si on y tient, lise un jour ce livre à ses neveux, dont l'un est une nièce, et se trouve embarrassé par ce passage qu'il juge offensant pour elle. On verrait alors toute une tribune de mecs, du plus taré au plus malin, se disputer autour de la question de savoir si, oui ou non, ce prince des filles est sexiste. Et pas un ne penserait à s'interroger sur sa construction de genre à l'intérieur de son discours. Tous auraient totalement acquis d'évidence leur droit à la parole et l'intérêt en toute chose de leur avis. Quid de l'humour, me direz-vous ? Et vous auriez raison. L'humour, c'est la première mise à l'épreuve de la confiance. Et c'est aussi la première cible du politiquement correct. Je me souviens de cette assemblée de meufs. On allait faire une revue ensemble. C'était les premières réunions. On ne se connaissait pas très bien et on ne savait pas très bien non plus comment on allait fonctionner. On cherchait un thème. Au milieu des propositions, il y en a une qui dit « la joie ». Une autre, qui avait mal entendu, répond « la Shoah ? Rire. La joie, corrige la première. Rire à nouveau. Dans certains cerveaux, dont le mien, se produit un court-circuit d'hilarité parce que la joie, prononcée avec un accent germanique, devient la Shoah. L'une, croyant faire un bon mot, propose la joie de la Shoah. Et c'est le clash. Une des meufs, nouvellement arrivée, est juive, autrichienne, et ça la fait pas rire du tout de se retrouver en face de propos antisémites dans un espace qu'elle pensait « safe ». Explication, rassurance, excuse, rien n'y fait. La confiance n'a pas eu le temps de s'installer, l'humour est tombé mal et c'est mort. Elle ne reviendra pas aux réunions. Cette meuf, qui est depuis devenue une copine, je l'ai vue demander à Abdel, patron marocain musulman d'un snack où nous déjeunions, si son saucisson était cachère. Et je les ai vus rire, tous les deux. Quant à la copine qui a lâché la malencontreuse blague, c'est la personne la plus loyale, la plus intègre et la plus engagée que je connaisse sur les questions raciales. L'humour, donc, comme indice de confiance politique, dont il est aussi la condition, pour être le marqueur de cette zone floue, instable et minée dont nous avons fait notre biotope. Le territoire où les rapports de force flirtent sans cesse avec les logiques de pouvoir qu'elles visent à démonter. Ainsi, tu peux être noir, adorer Fifi au point de porter un t-shirt fifiminisme et rire en lisant par exemple ceci.
Chaque jour, à peine l'école finie, Tommy et Annika se précipitaient à la villa Drôle de repos. Ils refusaient de faire leurs devoirs chez eux et emmenaient leurs livres de classe chez Fifi. « C'est bien, disait Fifi, travaillez donc ici, comme ça un peu de votre savoir rejaillira sur moi. » Non pas que je trouve en avoir vraiment besoin, mais peut-être qu'on ne devient pas une dame bien élevée sans savoir combien il y a d'otanteaux en Australie. Tommy et Annika étaient assis à la table de la cuisine et étudiaient leur manuel de géographie. Fifi était assise sur la table de la cuisine. « Quoique, objecta Fifi, en se mettant un doigt dans le nez, si j'apprends en cet instant précis combien il y a d'otanteaux et que l'un d'eux meurt d'une pneumonie, j'aurais appris ce chiffre pour rien. Ça ne fera pas de moi une dame bien élevée. » Fifi réfléchit. « Quelqu'un devrait dire aux otanteaux de faire attention pour qu'il n'y ait pas d'erreur dans vos manuels. »
Parce que, simplement, Fifi serait ta pote, que tu l'aurais suivie depuis l'enfance dans toutes ses aventures, que tu connaîtrais son exubérance, sa causticité, la violence parfois de ses provocations, autant que son cœur immense, et qu'elle serait pour toi au-dessus de tout soupçon politique. Ça, c'est pour l'explication soft de la copine qui hésite à nous dire la vérité, soit qu'elle souhaite nous protéger, soit qu'elle craigne notre réaction. Voire parce que tu sais depuis ton premier jour sur Terre qu'il te faudra toujours dealer avec ce soupçon et l'exigence qu'il t'impose d'en savoir plus sur les blanches que les blanches n'en savent sur elles-mêmes.
James Baldwin. Ouais, mais il y a une vraie différence entre la manière dont un homme regarde le monde et la manière dont une femme regarde le monde. Une femme en sait bien plus qu'un homme. Audre Lorde. Et pourquoi ? Pour la même raison pour laquelle les Noirs savent ce que pensent les Blancs. Parce qu'on devait le savoir pour notre survie.
Voilà pour l'explication sincère qu'il nous faudra bien, tôt ou tard, accepter d'entendre.
I'm laughing so hard, it doesn't look like I'm laughing anymore.
La nôtre de sincérité ? Nos intérêts ? Ok, ce nous-là, le nous blanc, cet héritage-là. Et ce dont on hérite, nous, les traumatismes dont personne ne parle. Les meubles de famille encombrants dont on n'héritera pas parce qu'on n'héritera de rien. Les meubles de famille qui ne sont pas des crimes de guerre qu'on s'imagine, mais des trous dans nos histoires écrites et réécrites par ceux qui nous ont colonisés. Le nôtre d'héritage. Fifi, l'héritage de toutes, non ? Les nôtres de privilèges, non les vôtres. Tu squattes, mais pour squatter, il faut pas avoir été invité à entrer, à rester, à s'installer. Comment citer Audre Lorde sans spécifier qu'elle était noire et que tu es blanche, et que vous n'auriez jamais eu la même position dans la maison du maître ? Notre reflet. Le mien est résolument anarchiste, queer, punk, féministe, anti-autoritaire. Mais il n'est pas blanc. Devais-je sauter le chapitre ? Cet exercice de confrontation à soi-même. Je la lis où, l'anarcho-queer afro-féministe qui lit Fifi et se confronte au colonialisme et au racisme qu'elle retrouve dans ce texte comme dans sa vie. Je le trouve où, l'espace pour lire, découper, discuter de Fifi pour faire en sorte que toutes les filles puissent être des pirates.
Sarah Gellam.
post-scriptum, où l'on s'avise que la solitude est une maison hantée. C'est toujours comme ça. Il y a quelque chose dans l'écriture qui refuse de s'immobiliser. Tout semble pourtant prêt, mis en place pour la conclusion, mais au moment d'appuyer sur le déclencheur, des fantômes surgissent qui voudraient bien, même flous, être sur la photo. Et comme j'envie leur talent de l'impromptu, à leur exigence cabotine, je cède. Ainsi, à peine avais-je fermé le chapitre sur l'impensable anti-héroïne, qu'elle me tombe littéralement dessus au détour d'un hasard qui me fait, immédiat, l'effet d'un clin d'œil de reliance. Le mot est là, tout simplement posé, sans même être interrogé, ni guillemets, ni italique, par Agnès de Sarthe dans sa préface à l'art du roman de Virginia Woolf. Il y est question de Mrs. Brown.
Mrs. Brown est le point aveugle des romanciers à la papa. Le trou noir qui attire et détruit à force de concavité. L'anti-héroïne qui annonce la naissance du roman moderne.
Une fabulation par laquelle Virginia Woolf présente la grande absente de la littérature. Une petite figure de personnage qui surgit sous ses yeux de romancière en disant
« Je m'appelle Brown, attrape-moi si tu peux ».
Il ne s'agit pas d'une de ces petites filles rousses aux longues chaussettes dépareillées qui viennent habiter la fièvre d'une enfant malade et qui, par la seule évocation de son nom, oblige une mère de famille à devenir romancière. Non, il s'agit
d'une de ces vieilles dames propres, râpées, dont l'ordre extrême, tout boutonné, ajusté, attaché, raccommodé, brossé, suggère l'extrême pauvreté plus que ne le feraient les haillons et la saleté. Il y avait en elle quelque chose de contraint, un air de souffrance, d'appréhension et par surcroît, elle était très, très, très petite. Ses pieds, dans leurs petites bottines propres, touchaient à peine le plancher.
Voici donc Mrs. Brown, un personnage qui s'impose à quelqu'un et lui donne envie presque automatiquement de commencer à écrire un roman sur elle.
Je pense que tous les romans commencent avec une vieille dame assise dans le coin en face.
L'ayant en effet installée dans le coin d'un compartiment de train, Virginia Woolf fait s'asseoir en face de Mrs. Brown, l'un après l'autre, tous les grands romanciers de l'époque. Qu'aurait-il écrit à propos d'elle ? Rien. Ils auraient été tout simplement incapables de la regarder, de l'entendre, et l'auraient utilisée comme un support à l'activation de leur propre idéologie littéraire.
Ils ont créé une technique romanesque qui convient à leur but. Ils ont fabriqué des outils, établi des conventions qui font leur affaire. Mais ces outils ne sont pas nos outils, et cette affaire n'est pas notre affaire. Pour nous, ces conventions sont la ruine, ces outils sont la mort.
Quel rapport avec Fifi Brin d'Acier, me direz-vous ? Quel rapport avec le féministe punk ? Ce sont bien les questions que je me pose aussi, tandis que je m'approche en hésitant de la villa des Settergren. Je vous invite à m'y rejoindre et vous suggère d'accepter avec moi le flou de la photo.
Mathilde, dans le flou, se sent un peu chez elle. J'écris jamais parce que justement, écrire égale graver, égale être dans un semblant de sûreté, même temporaire. C'est donc un exercice difficile que tu demandes. Mais il m'arrive de répéter des mots jusqu'à n'entendre que la musique et plus le sens, ou quand on est suffisamment fatigué, c'est comme de regarder flou, une bonne compétence pour moi qui voit en 2D astigmate et mal de près, tu peux entendre les voix et le langage des copines sans plus rien y comprendre et te rendre compte peut-être d'à quoi ressemble ta langue quand tu y as perdu accès, anticiper l'aphasie.
S'étonnant de ne pas les voir débouler chez elle cet après-midi-là, Fifi décide d'aller voir chez Tommy et Annika ce qu'ils fabriquent. Ils ne sont pas seuls. Dans le jardin, il y a Madame Settergren, leur maman, ainsi qu'une adorable vieille dame, c'est Tante Laura.
Oh, ça ne va pas du tout, dit-elle. Je suis à bout de nerfs, anxieuse à tout propos. Exactement comme ma grand-mère, répond Fifi en trempant énergétiquement un gâteau dans son verre de jus d'orange. Elle était à bout de nerfs et un rien la mettait dans tous ses états. Par exemple, si en se promenant dans la rue, elle recevait une tuile sur la tête, elle se mettait à sauter, à crier, elle en faisait une telle histoire que vous auriez pensé vraiment qu'elle avait eu un accident. Tommy et Annika étaient figés sur leur chaise. Tante Laura avait l'air perplexe. Et Madame Settergren s'empressa de dire « J'espère de tout cœur que vous irez mieux très bientôt, Tante Laura ». « Elle ira mieux, » dit Fifi sur un ton encourageant. « Grand-mère est allée mieux. Elle allait même terriblement mieux après avoir pris un remède apaisant. »« Quel genre de remède ? »
demanda tante Laura avec intérêt. « Du poison pour les renards, dit Fifi. Une cuillère à soupe de poison pour les renards. C'est un truc bon, je vous le promets. » Après ça, elle est restée 5 jours morte dans son fauteuil, sans piper mot. Calme comme un concombre. Complètement guérie, en fait. Plus de sursauts, plus de hurlements. Il pouvait pleuvoir des tulles sur sa tête, elle restait assise à profiter tranquillement. Alors, si grand-mère a guéri, pourquoi pas vous ? Tommy s'était glissé près de tante Laura et lui chuchota à l'oreille. « Ne tiens pas compte de ce qu'elle dit, tante Laura. C'est juste une histoire qu'elle invente. Elle n'a pas de grand-mère. »« Tommy a raison, dit Fifi. Je n'ai pas de grand-mère. Pas la moindre. Mais alors, qu'est-ce qu'elle avait à être tout le temps aussi nerveuse ?»
Virginia Woolf. Une convention littéraire n'est pas très différente d'une convention mondaine.
« Moi, est-ce que la fumée vous dérange ?»
Haroun, je m'ennuie.
Madame Cedargreen, il convient que les enfants se montrent, mais pas qu'on les entende.
Fifi. D'accord, mais les gens ont des yeux et des oreilles, si je ne me trompe. Et même si je suis un régal pour les yeux, ce n'est pas une raison pour priver les oreilles d'un peu d'exercice.
Théa.
Elle est trop forte.
Virginia Woolf. Votre rôle, c'est d'exiger que les écrivains descendent de leur piédestal et décrivent, d'une manière belle si possible, vraie en tout cas, notre Mrs. Brown. Vous devez exiger qu'elle soit une vieille dame d'une capacité infinie et d'une infinie variété, capable d'apparaître en tout lieu, de porter toutes sortes de vêtements, de dire toutes sortes de choses et de faire Dieu sait quoi.
Astrid Lindgren, il n'y a rien dans les 10 commandements qui interdisent aux vieilles dames de grimper aux arbres, si ?
Anonyme, vous ne nous attraperez pas, nous n'existons pas.
Tante Laura, au revoir, chère petite amie. Tu as raison, je pense que je vais déjà mieux. Et je me sens beaucoup moins nerveuse à présent.
C'est à ce moment-là que j'ai pris la photo. Au moment où tante Laura caressait la tête de Fifi en souriant. C'est à ce moment-là, je crois, que j'ai compris qu'elles étaient de la même espèce. Faites toutes les deux d'une essence commune. Car dans ce sourire où s'étaient glissés quelques restes d'enfance, je voyais la trace soudain perceptible sur ses lèvres de vieille dame de son indubitable passé de petite fille.
C'était la page tourneuse avec la lecture de Féministe Punk de Christine Aventin chez Zone. Avec les voix de Valentine Bonomo, Sarah Guélam, Milady Renoir, Nora et Christine Aventin. Merci à Farida Madou et Kim Gordon pour les quelques cordes. Pour celles et ceux qui ont pris en cours peut-être à 4h du matin ou à 3h52 ou à 6h18. La rediffusion, le podcast est bien sûr disponible en intégralité, presque 7 heures de lecture sur radiopanique.org.
Radio Panique 105.4 FM.